Chapitre 8. Capturer la citadelle du silence. En elle, nul n'attaque. Nul ne peut vaincre l'infini, source de toute chose. Capturer la citadelle du silence, où toute maladie trouve guérison, où toute guerre trouve paix, où toute mort reprend vie. Capturez la citadelle du silence. L'amour sera votre bouclier. La lumière sera votre pain. Le son votre gardien. Capturez la citadelle du silence. Elle est la demeure de Dieu. Mahdi Vetraissi, premier successeur du Mahdi Naflin. Plongée dans une pénombre écorchée par les lampes à eau mourante, la maison était silencieuse. Le chevalier Longshu Pae avait coupé le canal UASF, universel auditif superfluide, qui proposait jour et nuit un programme continu de musique en phonique, entrecoupé de brefs bulletins d'information. Il avait également éteint le lecteur holographique de Bulovision, qu'il laissait généralement allumé en permanence. Assis en position de veille quiète, une posture que certains spécialistes de l'Inda de Terra Mater appelaient également « lotus », il s'était totalement immergé dans le torrent de ses pensées. Il s'était isolé dans la pièce la plus retirée de la maison, située au deuxième étage. Un réduit carré sans fenêtre, entouré de rayonnages sur lesquels s'entassaient livres papier, livres lumière, films vidéo holo, et mémodisque codé. Un endroit dont il appréciait la qualité vibratoire et qui lui servait à la fois de bureau et de salle de méditation. Les rayons blafards d'une bulle flottante se glissaient timidement par l'entrebâillement de la porte donnant sur le couloir et dessinaient un carré délavé sur le parquet. Longshu Pae avait passé sa vieille bure défraîchie, d'une couleur indéfinissable tirant sur le gris, et assorti à ses cheveux poivre et sel coupé ras. Ses petits yeux noisettes, ses arcades sourcilières et ses pommettes saillantes, ses lèvres aiguisées qui donnaient à sa bouche l'apparence d'une plaie mal refermée, soulignaient l'aspect anguleux, ascétique de son visage. La bure se composait d'une ample veste, fermée sur le côté par une ceinture de corde et d'un pantalon bouffant resserré aux chevilles. Six attaches internes, des agrafes souples enchâssées dans la doublure, reliaient les deux pièces. Ce vêtement, qui semblait à première vue grossier, inesthétique, avait le mérite d'être fonctionnel. Il épousait chaque mouvement du corps, quelle que fût sa position, et n'entravait ni la circulation sanguine, ni la circulation énergétique, ni les gestes vitaux de celui qui le portait. Longshu Pae sentait de subtils courants d'air sur ses coudes et ses genoux, là où le tissu rêche, usé par ses longues années d'enseignement au monastère Apsurat de Selpdik, révélait les fils ajourés et blancs de sa trame. En général, les chevaliers Apsurat tiraient une pointe de vanité de l'usure de leurs vêtements, preuve visuelle de leur expérience, de leur ancienneté. Souvent, les jeunes aspirants et les guerriers en attente de la tonsure chevaleresque confondaient les trames élimées des bures et le mérite de leurs propriétaires, le contenant et le contenu. En cela, ils étaient abusés par bon nombre de nouveaux chevaliers dont le premier soin, après qu'ils avaient reçu la tonsure, était de donner à leur habit flambant neuf une allure artificiellement usagée par de fréquents lavages dans l'océan des fées d'Albar, de Selpdik, ou encore par de réguliers et volontaires frottements sur les récifs entourant le monastère. Quelques heures plus tôt, Longshu Pae avait reçu un messacode sur son tabernacle personnel. Sa surprise avait été grande de découvrir que l'ordre Apsurat se souvenait encore de son existence. Le messacode avait été expédié directement de Selpdik, sans passer par les habituels relais intermédiaires, ce qui démontrait à la fois son importance et son urgence. Il avait tenu un bref échange de signes codés avec le guerrier chargé de la transmission. Puis, dès la fin de la communication, il avait sorti sa vieille bure soigneusement pliée dans un coffre et s'en était revêtu avec un recueillement presque religieux. Maintenant, il attendait. Parfaitement immobile, il s'évertuait à emmagasiner de l'énergie vitale du Xui par le contrôle de sa respiration ventrale. Il pressentait qu'il aurait à utiliser le son de mort au cours de la nuit. Après une interminable période de rejet et d'oubli, l'ordre lui dépêchait un légat. Ce mystérieux envoyé, dont il ignorait le nom, l'âge, le grade, la compétence, l'objet de la mission, devait incessamment lui être amené par le responsable local du réseau d'informateurs, un vieux prouge métissé de néo-européens du nom de Kraufas, qui abritait le déromate de l'ordre dans le caveau situé sous sa boutique de location de mémodisques. La courte conversation que Longshu Pae avait eue avec le guerrier transmetteur du Messacode ne lui avait pas appris grand-chose de nouveau. Les renseignements collectés par les réseaux d'informateurs de tous les mondes laissaient entrevoir une sérieuse et imminente menace d'une guerre entre l'ordre et une coalition dirigée par un clan régnant des mondes du centre. Des bruits alarmants circulaient çà et là, faisant souffler un vent de panique sur de nombreuses planètes. On racontait que les seigneurs de la Confédération de Naflin, leurs ministres et les Smella de la Congrégation, avaient été enfermés dans la grande salle du palais des assemblées de Vénitia, la capitale syracusaine, et exécutés. Des voyageurs de commerce prétendaient que des monstres au regard foudroyant, tout droit surgis de l'univers inconnu, s'étaient emparés en quelques heures standard des places fortes, pourtant réputées inexpugnables, des principaux États membres et qu'ils contrôlaient désormais les populations locales, les voies de communication et les médias. On murmurait également que des membres des familles gouvernantes avaient subi d'inimaginables tortures et que les croix de feu kreutziennes se dressaient par milliers sur les places publiques. Ces rumeurs, probablement exagérées comme toute rumeur, n'avaient pas étonné Longshu Pae. Elles n'avaient fait que confirmer son propre raisonnement, établi sur les renseignements recueillis par son réseau personnel d'informateurs, des petites mouches, et sur le décodage des fréquences audio et holo superfluides universelles. Il se doutait donc, bien avant la réception de ce messacode, que l'ordre Apsurat allait devoir livrer combat dans le champ de la matière, et ce, après des siècles d'activité occulte dans l'ombre de la Confédération et de la Congrégation des Smella. Longshu Pae craignait que cette bataille, qui semblait désormais inévitable, fut à la fois la première et la dernière de l'ordre. Un commencement qui serait une fin. Elle créerait une fracture, un hiatus irréversible dans la tradition Apsurat. Mais cette issue n'était-elle pas inéluctable? Ne constituait-elle pas l'ultime vague d'un océan voué, quoi qu'il arrivât, à l'assèchement? Le chevalier se remémorait cette maxime du Mahdi Vera Tracy, premier successeur du Mahdi Naflin, le fondateur. Se trouver dans l'obligation d'affronter un ennemi dans le champ de la matière, c'est avoir déjà perdu la guerre. Après quelques missions de pacification sur des planètes mineures non affiliées à la Confédération, le jeune chevalier Longshu Pae avait été rappelé au monastère de Selbdik où le collège décisionnel, composé de 4 chevaliers couverts de gloire et d'années, l'avait estimé apte à remplir la fonction d'instructeur. Une tâche honorable dont il s'était acquitté avec l'énergie, la flamme qui le caractérisait, avec également un humour féroce qui faisait la joie des aspirants. Puis il avait peu à peu réalisé que les décisions du collège allaient le plus souvent à l'encontre de ses propres convictions intimes. Perturbé par cette constatation, il avait voulu s'en ouvrir au Mahdi Sekoram, grand maître de l'ordre, mais le collège avait jugé inopportune sa requête. « Le Mahdi Sekoram est très occupé, on ne le dérange pas pour de pareilles vétilles, chevalier, » lui avait-on répondu. « Nous, membres du collège, sommes chargés d'éviter au Mahdi de constantes et insignifiantes sollicitations, » avait-on ajouté. « Les vertus d'obéissance et d'humilité sont souvent mises à l'épreuve, chevalier. Cherchez la réponse à vos interrogations à l'intérieur de vous-même. » Mais Long Shu Pae, tenace, mû par un besoin pressant de comprendre, ne s'était pas résigné. À ses heures libres, il avait fouillé chaque recoin du monastère et finit par découvrir un accès à la crypte secrète des archives. Un escalier creusé sous le parapet du rempart extérieur, obstrué par un monticule de pierres éboulées, dévoré par une lèpre moussue, battu par les bourrasques du vent du large et les embruns délétères de l'océan des fées d'Albar. Puisqu'on lui interdisait de consulter le Mahdi présent, Long Shu Pae s'arrogeait le droit, une autodécision qui équivalait à une hétérodoxie, d'en référer au Mahdi du passé. N'étaient-ils pas tous, actuels ou anciens, de la même lignée? L'intérieur de la crypte est sombre. Il y règne une forte odeur d'iode et de décomposition. Le rayon de la torche lase balaie les rayonnages de pierre sur lesquels s'entassent des montagnes de documents recouverts d'une couche de moisissure verdâtre. D'antiques livres papier aux pages collées, poisseuses, illisibles, et des films vidéo holo à émulsion protégée. Long Shu Pae découvre un peu plus loin un lecteur holographique d'un modèle pré-naflinien qui gît dans une flaque d'eau. Il l'examine. Le sel a rongé les puces électroniques et le prisme de projection dimensionnelle est rayé. Plus loin encore, une armoire en dural adossée à la paroi voûtée. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver le code d'ouverture. Les portes coulissent dans les compartiments de l'armoire, d'autres films, des clés codées et des puces de rechange en parfait état. À la lueur de sa torche lase, il procède fébrilement au remplacement des puces sur le lecteur holographique. Puis il pose le vieil appareil sur une saillie rocheuse et insère un film dans la fente de projection. Le lecteur renacle, grésille, clignote. Puis le miracle se produit. Des images tridimensionnelles réduites, sonorisées, légèrement déformées par la rayure du prisme, s'élèvent dans la crypte. Le film montre en accéléré la construction du monastère de Selpdik. Long Shu Pae voit d'abord les immenses fosses des fondations, puis les énormes pierres de taille qui sortent du sol et s'entassent les unes sur les autres jusqu'à former les murs, les remparts, les parapets, les machicoulis, les rampes crénelées, les citernes, les cours, les donjons, les bâtiments intérieurs reliés par des souterrains, des escaliers et des chemins de ronde. Il n'y a pas d'ouvriers, et d'invisibles ondes portantes, sculpteuses, ajusteuses font tout le travail d'après des plans préprogrammés. L'ouvrage est terminé. Un homme seul, minuscule, s'avance et entre par le portail d'entrée monumental. Long Shu Pae croit reconnaître la silhouette du Mahdi Naflin. Surexcité, le chevalier visionne d'autres films. La plupart sont des cours magistraux qui traitent directement ou indirectement du même sujet. La conquête de la citadelle du silence. Puis le beau et grave visage du Mahdi Vetresi lui apparaît. Sa voix à la fois puissante, autoritaire et douce traverse les siècles, se répercute sur les parois et la voûte de la crypte. Ces paroles apaisent le feu des blessures intérieures de Long Shu Pae, qu'une joie immense, extatique, submerge. Il se plonge corps et âme dans le flot lumineux qui jaillit de la bouche du Mahdi et laisse déborder des larmes de reconnaissance. Il ne cherche pas à rassasier son intellect, son mental, mais vibre, ouvre son cœur. Il n'éprouve pas le besoin de dormir. Les heures passées dans l'humidité irrespirable de la crypte le régénèrent, effacent toute trace de fatigue. Il repasse inlassablement le film vidéo holo dans le lecteur, s'imprègne de chacun des mots crachotés par le canal audio. Il en arrive à la conclusion que l'ordre fait fausse route, s'éloigne lentement mais inexorablement de l'enseignement originel, qu'il en a égaré les principes fondamentaux qui gisent, disponibles, quelques mètres sous le monastère. Au bout de plusieurs semaines de visites régulières à la crypte des archives, le chevalier Long Shu Pae n'avait pas pu s'empêcher de vouloir partager ses nouvelles convictions avec certains chevaliers de ses amis. Mais il lui avait opposé un mur de silence et de méfiance, parfois même de mépris. Il ne désirait pas être mêlé de près ni de loin à ce qu'il considérait comme une hétérodoxie, une dissidence. Quelques mois plus tard, sur dénonciation anonyme et après enquête des vigiles de pureté, les chevaliers chargés de faire respecter l'orthodoxie de l'enseignement, Long Choupaé avait été exclu du monastère de Selbdik et exilé sur Point Rouge, comme le Raskata qu'il était devenu. Il en avait appelé à l'arbitrage du maître du Mahdi Sekoram, mais on lui avait catégoriquement refusé cet ultime recours. « Croyez-vous, chevalier, que le Mahdi ait du temps à perdre avec un insoumis, un rebelle ?» Suprême humiliation, le collège lui avait signifié sa décision en public, devant tous les résidents du monastère rassemblés dans la cour principale. Devant ses propres élèves, il lui avait lancé des regards courroucés, presque haineux. Devant ses anciens amis, il avait soigneusement évité de croiser son regard. Sur Point Rouge, Long Choupaé avait envoyé d'innombrables messacodes au Mahdi Sekoram, mais celui-ci ne s'était jamais manifesté. Le collège gardait jalousement la tour des Mahdis, et s'était probablement arrangé pour intercepter les communications et maintenir le pestiféré à l'écart. Les années s'étaient égrenées, avaient enseveli Long Choupaé sous le sable de l'amertume. Il avait tenté de lutter contre l'aigreur, la rancœur, des sentiments médiocres qui venaient sans cesse l'assaillir, en créant un réseau d'informateurs destiné avant tout à entretenir la fragile flamme d'espoir qui vacillait au fond de son gouffre de mélancolie. C'est pourquoi sa surprise avait été totale lorsqu'il avait entendu le grésillement caractéristique de son tabernacle récepteur, qu'il gardait toujours branché par principe. Pendant quelques secondes, le fait que l'ordre se souvînt encore de son existence après ses années d'exil l'avait rendu heureux, presque euphorique. Et puis la teneur du messacode lui avait fait l'effet d'une douche froide. Le collège décisionnel l'avait contacté dans l'unique but de faciliter le travail d'un légat, d'un chargé de mission. Long Choupaé n'avait pu s'empêcher d'être déçu. Mais il s'était efforcé de combattre son dépit, il jugeait indigne d'un chevalier. Les très honorables vertus d'obéissance et d'humilité étaient deux des règles fondamentales d'une organisation à laquelle il n'avait jamais cessé d'appartenir. Il avait donc décidé de taire son ressentiment et de se mettre sans réserve au service du légat. Mais il se demandait encore s'il ne valait pas mieux suivre la voie de sa conscience, si son véritable devoir ne consistait pas à proclamer haut et fort la vérité, sa vérité. Il se demandait si le feu ardent qui avait embrasé son âme lors de sa jeunesse au monastère, cette quête exigeante, passionnée, exaltante de la connaissance, n'avait pas été réduit à l'état de cendre froide par son propre renoncement, sa propre faiblesse. La lampe à ondes rouges coincée entre deux livres d'un rayonnage zébra soudain la pénombre de lueurs vives. Long Choupaé compta machinalement les impulsions. Six brèves et trois longues, le code de reconnaissance de Kraufas. Le chevalier déplia ses longues jambes, se leva et descendit sans hâte l'escalier en colimaçon qui reliait directement le deuxième étage au rez-de-chaussée. Il longea ensuite un étroit couloir dont l'entrée était dissimulée par une porte coulissante en trompe-l'œil. À l'autre extrémité se dressait une deuxième porte d'acier, recouverte d'un capitonnage de tissu vie qui assurait une complète isolation phonique et vibratoire. Long Choupaé attachait la plus grande importance à la qualité vibratoire des lieux. Il sortit une console d'un repli de sa bure et composa le code d'ouverture. La porte pivota silencieusement sur ses gondes durales. Kraufas, le responsable du réseau, attendait sur le trottoir, enfoui dans une ample cape rouge appelée Gubiane. La clarté chétive de Salom, déjà haut dans le ciel, ourlait les reliefs d'une aura maladive. « Seul ?» demanda Long Choupaé à voix basse. Kraufas ne répondit pas. Il plaça ses doigts dans sa bouche et lança deux brefs coups de sifflet. Une seconde ombre, également recouverte d'une gubiane grise, s'extirpa des replis de la nuit, comme crachée par les ténèbres enveloppant la rue déserte. « C'est lui !» La capuche de la gubiane de Kraufas se pencha vers l'avant. « Entrez !» Long Choupaé s'effaça devant les visiteurs. Il referma la porte et en changea aussitôt le code d'accès. précaution qu'il prenait systématiquement pour chacune des 7 entrées de la maison. Par ici. Les 3 hommes s'engouffrèrent à la file dans l'escalier tortueux. Le chevalier réfrénait tant bien que mal son impatience de découvrir quel personnage se dissimulait dans l'étoffe grise qui le précédait. Peut-être l'un de ses anciens amis. Il introduisit les 2 hommes dans la salle carrée au 2e étage et appuya sur l'interrupteur mural de la lampe flottante, dont la luminosité dorée fit instantanément reculer les ténèbres. « Asseyez-vous où vous pouvez, » dit Long Chou Pae d'un ton affable. « Je vous souhaite la bienvenue sur Point Rouge. Je suis le chevalier Long Chou Pae. » Il posa sa main droite sur son front et s'inclina. Le légat de l'ordre lui rendit son salut, le salut traditionnel de la chevalerie absourate, puis se débarrassa de sa gubiane. La surprise cloua Long Chou Pae sur place. Il s'était apprêté à recevoir un digne chevalier, un proche du Mahdi, un expert de la connaissance du son et du mental, comme le sous-entendait le Messacode, et il se retrouvait devant un jeune guerrier qui n'avait pas achevé son noviciat. Incrédule, il fixait ce visage juvénile aux traits fins et réguliers, cette peau lisse et mate, cette abondante chevelure brune et frisée, cette prébure couleur bronze qui recouvrait un corps qu'on devinait athlétique. « Je suis le guerrier Philpas Musa, 3e fils de Don Sas Musa, seigneur de Sbarao et des Anneaux, » déclara le jeune légat avec dans la voix, dans le regard de jet et dans le maintien, cette fierté propre aux fils de nobles familles et aux natifs des Anneaux. Un homme de grande prestance en dépit de sa taille moyenne, figé dans une attitude raide, engoncé dans une armure de rigidité et de méfiance, il tentait de soutenir le regard froid de Long Chou Pae. Le chevalier ressentit nettement le bouclier d'agressivité derrière lequel se protégeait le guerrier. Il vit là une fanatique et sévère mise en garde du collège décisionnel contre sa nature jugée subversive et susceptible de contaminer les âmes innocentes. Aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques, Long Chou Pae était toujours ce fruit véreux qui pourrissait les fruits sains du panier. S'ils avaient fait appel à lui, c'était en désespoir de cause, uniquement parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autre solution. En aucun cas il ne s'agissait d'un quelconque retour en grâce, encore moins d'une reconnaissance tardive de ses mérites ou de ses capacités, comme il s'était complu à le penser. Au prix d'un terrible effort de volonté, il refoula sa déception et enfouit les débris de ses dernières illusions brisées dans un recoin de son esprit. C'est d'une voix détachée, neutre, qu'il déclara. « Eh bien, guerrier Philpas Musa, je suis ravi de pouvoir vous apporter mon aide. »« Mille grâces, chevalier, » répondit son interlocuteur du bout des lèvres, sans se départir de cette crispation qu'il essayait d'occulter sous un vernis de calme trompeur. Kraoufas s'était assis sur un coussin auto-suspendu et contemplait distraitement les dos des livres papier. Une question brûlait les lèvres de Long Chou Pae. « Avez-vous vu le Mahdi Sekoram ces derniers temps ?» Philpas Musa esquissa un sourire ironique, condescendant. « Voyons, chevalier, je n'aurai l'honneur de le rencontrer que lorsque j'aurai reçu la bure et la tonsure. Pourquoi donc voudriez-vous que j'aille le déranger ? Il a bien d'autres préoccupations que ma modeste personne, Dieu merci. » La morgue du jeune homme parut détestable à Long Chou Pae. Il avait l'impression d'entendre non pas le guerrier Philpas Musa, mais le collège décisionnel s'exprimant à travers lui. Ils avaient expédié un novice parce qu'il avait été facile pour eux de le conditionner, de le fanatiser. Ils avaient choisi un esprit malléable, tendre, qu'ils avaient bourré de dogmes à prise rapide pour qu'aucune faille, aucun doute ne soit en mesure de le fissurer. Mais que craignait donc l'ordre pour se livrer à de telles manipulations sur ses plus jeunes éléments ? Il fut un temps pas si lointain que ça, où le fait de rencontrer un Mahdi ne présentait aucune difficulté, soupira Long Chou Pae. C'était même un lot quotidien. Les temps changent, rétorqua Philpas Musa. À nous de savoir nous adapter. Si le Mahdi Sekoram s'est retiré de la vie du monastère et en a confié la charge au collège décisionnel, c'est qu'il a ses raisons. Et ce sont de bonnes raisons. En douteriez-vous, chevalier ? On vous a sans doute déjà parlé de ces doutes, n'est-ce pas ? Vous êtes en présence d'un paria, exilé à cause de son étrange propension à douter.
Pourquoi ? Que reprochez-vous à l'enseignement ?
Philip Asmussa avait craché ces mots avec violence, comme s'il libérait enfin le brasier trop longtemps couvé sous la cendre de son contrôle mental.
« Je ne reproche rien à l'enseignement. Je le vénère, » affirma calmement le chevalier.
« Mais parlons-nous bien du même ? J'ai l'impression que chacun cherche à l'interpréter à sa convenance, à se l'accaparer pour son propre compte, moi y compris. Il se trouve simplement que j'étais en désaccord avec la façon dont le collège se l'était accaparé.
À votre avis, à qui le collège se réfère-t-il ? Qui le guide et le conseille ? De qui est-il le représentant ?
Refuser les ordres du collège, c'est refuser les ordres du Mahdi.
Les yeux noirs de Philip Asmussa étincelaient de colère. La colère ne figurait pourtant pas dans la liste des vertus honorables de l'ordre.
C'est ce que le collège prétend, en effet. Mais sachez bien que je ne dis pas cela dans le vain but de me livrer à une joute oratoire superflue. « Exercice pour lequel vous me paraissez redoutablement armé, d'ailleurs. »« Vous me demandez mon opinion. Je vous la donne. »« Lorsque j'étais en poste au monastère, j'ai eu accès aux archives secrètes de l'ordre. »« Après les avoir longuement compulsées, je me suis rendu compte que l'ordre perdait son essence. »« Il tournait le dos aux principes qui avaient motivé sa création. »«
Les principes n'ont pas changé !» gronda Philip Asmussa.
Long Shu Pae se laissa choir dans un fauteuil et s'absorba un instant dans la contemplation de la lampe flottante.
Asseyez-vous donc, guerrier. Vous dites que les principes n'ont pas changé, mais savez-vous que le son, notre fameux son de mort, était à l'origine destiné à l'intériorisation. Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir ?
Philip Asmussa resta debout, tête penchée sur le côté, main sur les hanches, une attitude de défi.
À votre aise. Je disais donc que derrière le son, il y a le silence, le ksui, et le silence établit un rempart infranchissable.
Le son permet d'investir la citadelle du silence, le bâtiment inexpugnable devant lequel l'ennemi dépose les armes avant de combattre.
À ses débuts, l'ordre prévenait les conflits avant qu'ils aient eu le temps de germer. L'ordre était une machine de paix.
C'est ce qu'il est toujours.
Disons que c'est ce que vous croyez. Peu à peu, le son s'est extériorisé. Il s'est manifesté. Il est devenu une arme, et comme toutes les armes, il sert à détruire. L'ordre a lui-même détruit son rempart.
Connaissez-vous la très vieille légende des trompettes de Jéricho ?
Non ?
Peu importe. L'ordre a abandonné la citadelle et s'est aventuré dans le champ de la matière. Il s'est transformé en machine d'intervention, en machine de guerre, et risque tôt ou tard de capituler devant une autre machine de guerre plus puissante. Une machine de paix fait une bien piètre machine de guerre, ne croyez-vous pas ?
Quant à la citadelle du silence délaissée, d'autres l'ont peut-être déjà investie. Comme une armée ordinaire, une armée de bruit et de fureur, l'ordre s'est démesurément structuré au fil des siècles. La hiérarchie a peu à peu emprisonné la vie. Or, la vie n'est-elle pas une évolution permanente ? Les structures ne devraient-elles pas épouser cette évolution ? Que vaut la tradition lorsqu'elle n'est plus qu'une ossature vide et pesante ?
Long Shu Pae marqua un temps de pause. Un sentiment de désespoir l'envahissait, l'oppressait. Il avait eu autrefois l'occasion de remuer cieux et terres, de défier dieux et démons, de hurler ses certitudes au vent des tempêtes. Il ne l'avait pas saisi, par manque de courage. Désormais, il ne lui restait plus qu'à affronter la brise doucereuse des regrets.
La structuration forcenée est une gangrène, une lèpre, reprit-il d'une voix lasse. Elle dévore le cœur, rend stérile, Elle fait un désert d'une vallée riante et un triste cagot d'un garçon plein de sève. Elle exploite sans vergogne les cœurs purs, l'aspiration à l'idéal. Elle brouille la transparence, momifie le mouvement. Puis la vie finit par briser les carcans et reprend ses droits. Voilà quelques-unes des raisons qui m'ont fait douter, guerrier. Cette cristallisation n'est peut-être que l'inexorable produit du temps, la fin programmée d'un cycle. Quoi qu'il en soit, ma lâcheté m'a condamné à être le témoin lucide, désabusé et impuissant de l'écroulement d'un monde. Mais assez parlé de moi. Je vous fais perdre un temps précieux, et si vous êtes venu jusque sur ce monde de réprouvés, c'est pour accomplir une mission, je crois. Pas pour subir les divagations d'un vieil hétérodoxe. Malgré les mises en garde des quatre sages du collège, toutes les jointures de l'armure artificielle de Philippe Asmussa, de cette piètre protection mentale dont on avait cru bon de le prémunir, s'étaient lézardées sous les chocs assénés par les mots du chevalier Lang Shupai. Le guerrier fut effaré par sa propre faiblesse, par sa friabilité, par son inconstance. Les propos du banni avaient taillé de telles brèches dans ses convictions qu'il eut l'impression que son esprit mis à nu s'en allait en lambeaux. Il mesurait désormais la largeur du fossé qui le séparait des chevaliers tonsurés, grade auquel son impatience juvénile le pressait d'accéder. Kraufas lui-même avait tourné son visage vers Lang Shupai. Interloqué par le discours du chevalier, un homme qu'il fréquentait depuis plus de 20 ans et il croyait connaître, le vieux Prouge l'observait attentivement au travers de ses lourdes paupières mi-closes. Philippe Asmussa s'efforça de rassembler l'armée éparpillée de ses certitudes, de ses croyances forgées par ses 3 années d'apprentissage au monastère de Selpdik. Cette tentative de déstabilisation était une épreuve. Peut-être l'épreuve ultime voulue par le collège pour sonder sa fiabilité, son aptitude à la chevalerie. Il raffermit sa posture, redressa les épaules et plongea résolument le regard dans les étoiles rétractées ternes de Lang Shupai. « Le passé est mort !» déclama-t-il d'une voix forte mais dans laquelle l'oreille avertie de son interlocuteur décela des fêlures. « Vous semblez avoir oublié cette devise, seul présent vit. Vous parliez d'évolution permanente, je crois. Vous-même n'avez pas su évoluer avec l'ordre. Vous n'en faites plus partie. Vous avez perdu la confiance. Vous n'êtes plus qu'un élément incontrôlé, parasite. Vous avez rejeté la tradition et votre maître vous a renié. » Il avait prononcé cette dernière phrase avec un mépris souverain. C'était exactement le genre d'argument irréfutable qu'employaient les 4 sages du collège lorsqu'ils souhaitaient mettre un terme à la discussion. Un maître ne renie jamais. Venons-en donc au fait du présent, ironisa Lang Shupai. Vous est-il permis de m'exposer l'objet de votre passage sur cette planète?
Je suis venu chercher quelqu'un. « Une jeune fille, » expliqua Philippe Asmussa, irrité par l'expression sarcastique du chevalier. « La fille du Syracusain Sri Alexou. Selon nos dernières informations, elle se trouve sur Point Rouge. Son père l'a chargée de contacter l'ancien Smela Sri Mitsu. Le collège m'a confié la tâche de la ramener le plus vite possible au monastère de Selpdik. »
« Sri Mitsu est mort au zénith de Feu Rouge, » dit Lang Shupai. Exécuté par des mercenaires de Prithiv. L'une de mes petites mouches les a vus en train de brûler le corps aux rayons momifiants. Un jeune homme Prouge qui se trouvait chez lui a réussi à s'échapper.
« Et la fille? Avez-vous des nouvelles de la fille ?»
Lang Shupai se tourna vers Kraufas.
« Dis-moi, il n'y a pas une enchère vedette d'une jeune Syracusaine au cher marché cette nuit ?»
Les doigts du Prouge fourragèrent dans son buisson de cheveux rouges et crépus.
« Si, une marchande homme du gros Clactus, le négociant. »«
Eh bien, il est fort probable qu'il s'agisse de la fille que vous recherchez, guerrier. Les Syracusaines se font tellement rares sur Point Rouge qu'on les remarque tout de suite. S'il y en avait une autre, nous le saurions. Pourquoi le collège veut-il que vous ameniez cette fille sur Celdic? Introduire une présence féminine au monastère, c'est, me semble-t-il, aller à l'encontre d'une règle fondamentale.
Ce n'est pas à moi à répondre à ce genre de questions, chevalier,
objecta Philip Asmussa.
Mon but est de la ramener, le reste n'est pas de mon ressort.
Évidemment. Mais vous arrivez un peu tard. Elle est devenue le centre d'intérêt du cher marché, et cela ne va pas nous faciliter la tâche. Il y aura là tous les Franzao de la Camorre, et leurs armées au grand complet. Les négociants et leurs bandes de tueurs gavées de poudre insensibilisante, les acheteurs et leurs escortes. Mais à toute chose, malheur est bon. Les enchères vedettes n'ont lieu qu'en fin de réunion. Cela nous permettra de prendre quelques dispositions.
Long Choupaé se mordit les lèvres et s'inclina.
Veuillez me pardonner, guerrier. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je suis votre serviteur. Commandez et j'obéirai.
Philip Asmussa foudroya son vis-à-vis du regard, mais s'interdit de répliquer. Il avait décidé de ne plus se laisser déstabiliser par le ton caustique du chevalier, dont la seule préoccupation consistait à le faire sortir de ses gonds. Il balaya son exaspération d'un revers de main. Il lui fallait se reconcentrer sur sa mission. Ce n'était ni le moment ni le lieu de se livrer à de vaines querelles.
Contrôle de soi, commenta Long Choupaé. Vous avez raison, guerrier. Il faut savoir maîtriser l'incendie. Le maîtriser et non l'éteindre. Là réside peut-être le secret.
Vous pouvez me conduire au... à l'endroit de cette vente?
Je suppose que les assassins de Prithiv qui ont éliminé Srimitsu sont également à la recherche de cette fille. Nous n'avons plus de temps à perdre si nous voulons les prendre de vitesse. Avez-vous un bouclier à air compact sur vous?
Je ne me sépare jamais du mien.
Sage précaution. Pas la peine de vous déguiser avec cette gubiane de nuit guerrier. Elle entrave les mouvements. De plus, les Prouges n'aiment pas que les Godapis, les étrangers, portent leurs vêtements traditionnels. Ici, on se fout de l'ordre Absurat comme de sa première dent de lait. Votre prébure fera très bien l'affaire.
Kraufas se leva et se drapa dans l'ample tissu gris. Il rabattit le capuchon sur son visage sec, son cou décharné, son nez aquilin et la masse flamboyante de ses cheveux. Long Choupaé passa, quant à lui, une courte veste bleu nuit et couvrit son crâne d'un bonnet de coton blanc.
Vous avez honte de votre tonsure perpétuelle?
Ne put s'empêcher de demander Philip Asmussa fielleux, oubliant sa résolution. Le chevalier l'enveloppa d'un long regard glacial. Il doutait, toujours le doute, de l'intérêt esthétique de ce petit rond de peau luisant au milieu de sa toison grisonnante. Mais ce n'était pas exactement le genre d'argument que son jeune et bouillant interlocuteur était prêt à recevoir. Les trois hommes s'enfoncèrent dans les ruelles désertes et envahies d'obscurité. Quelques bulles lumière poussées par la brise nocturne flottaient au-dessus de leurs têtes. Ils durent enjamber des corps allongés sur les trottoirs, des mordus de poudre dont quelques-uns ne verraient pas le lever de point vert. Ils arrivèrent sans encombre jusqu'à la grande place rectangulaire qui servait de toit au cher marché. Il y régnait une grande animation, une effervescence électrique. Agglutinés autour des taches de lumière striant les allées creuses et rectilignes, les badauds s'efforçaient de ne pas perdre une miette du spectacle qui se jouait sous eux dans une salle archi-comble. Les exclamations fusaient, les commentaires soulignaient les qualités ou les défauts des vedettes de la vente, exposées nues et seules, comme de somptueux animaux dans des cages à parois d'air. Long Choupaé, Philip Asmussa et Kraufas jouèrent des coudes et des épaules pour fendre un groupe compact de loqueteux et s'accroupirent au bord d'une lucarne. Leur intrusion déclencha une levée de horions, de cris d'indignation, d'invectives, de menaces. Mais un regard panoramique et intimidant de Long Choupaé suffit à rétablir le calme. Les mendiants firent appel à leur bon sens, le sens de la survie, et s'accommodèrent de leur mieux des trois nouveaux arrivants. Chacun allongea le cou, se tordit le dos, se dévissa la tête, et put jouir du tableau vivant découpé par les bords de verre épais. Long Choupae et Philippe Asmoussa distinguèrent d'abord la scène centrale, une estrade ronde sur laquelle se déversaient à profusion les feux croisés des projecteurs autosuspendus. Les puissants raies lumineux ne parvenaient pas à transpercer les parois d'air de certaines cages, hermétiquement voilées. Sur d'autres scènes, disséminées dans la salle et moins bien éclairées, se déroulaient les ventes par lot, les mains des marchands d'hommes répartis par famille, par âge, par origine ou regroupés arbitrairement, se crispaient sur les barreaux métalliques. Légèrement en retrait, des yeux résignés ou fous de douleur tentaient de percer la pénombre, d'extirper des visages familiers, rassurants, de la mer houleuse et grondante qui les environnait. Comme on les vendait par lot à saisir en l'état où elle laissait, on n'avait pas pris soin de leur retirer les bouts de tissu crasseux et déchirés qui leur faisaient office de vêtements.
« Vous, un chevalier, vous n'avez jamais rien fait pour interrompre ce lamentable spectacle ?»
grommela Philippe Asmussa, dont la voix vibrait d'indignation contenue.
« Il se joue pourtant sous vos fenêtres. »
« Perdez donc cette détestable manie de juger, guerrier, » répliqua Long Choupae à voix basse. « Le jugement obscurcit l'esprit et empêche d'agir librement, intuitivement. Essayez plutôt d'évaluer les forces en présence. »
Une rumeur grondante traversait le toit de béton et venait s'échouer sur la place. Autour des scènes se pressait une foule dense, un océan tumultueux de têtes et de couvre-chefs de toutes formes, ondulant au gré des lancements des enchères, soulevés de temps à autre par de violentes et furieuses vagues. Une multitude braillarde, surexcitée, composée d'individus provenant de tous les mondes et de toutes les catégories sociales. Bourgeois enrobés, au visage rougeau, apoplectique, surmontés de coiffes extravagantes, mal protégés de la pression populacière par des gardes du corps débordés, aventuriers et trafiquants de l'espace aux gueules burinées et ravagées, aux regards farouches, aux gestes vifs et précis, hommes et femmes de noble lignée, reconnaissables au luxe de leurs vêtements, souvent à la dernière mode syracusaine, manteaux ou capes à motifs changeants sur col encore uni, et à leur condescendance hautaine que rien ne paraissait en mesure de perturber. Interliciés en uniforme bleu dont le rôle officiel était de juguler les mouvements de foule mais qui, en fait, était grassement rétribué par la camorre pour veiller à sa propre sécurité. Trogne blême, pathétique, dégueu et traîne-cul en proie au manque de poudre, guetté par la folie et la mort. Et puis, juste devant la scène centrale, assis sur de confortables fauteuils autosuspendus, séparés du reste de la foule par un invisible paravent magnétique, escortés de leurs gardes vêtus d'uniformes à leur couleur, se tenaient les Franzao de la Camorre et les grands négociants.
« Ils sont vraiment tous là ce soir, » remarqua Long Choupae. « Vous voyez le gros là-bas, à la droite de la scène ? C'est Glactus le négociant, l'actuel propriétaire de la Syracusaine.
Un pachyderme, une masse informe de graisse blanche enveloppée dans une gabada néo-européenne de couleur prune pailletée d'or. » Un visage directement soudé aux énormes pectoraux qui s'enlisent eux-mêmes dans les replis du ventre. Assis sur trois chaises autosuspendues martyrisées, Glactus jubile, décoche de petits sourires minaudeurs, fait des signes de main. Ses doigts boudinés sont cerclés de bagues d'optalium. Son fond de teint commence à se diluer et à dégouliner sur ses multiples mentons. D'épaisses gouttes de sueur dégringolent de sa chevelure blonde et aplatie, serpentent sur son front, creusent des sillons sur ses tempes et ses bas-joues. Derrière lui, vigilante, aux aguets, parade une troupe inquiétante de brutes aux poitrines, aux bras et aux jambes bardées de cuir et d'acier.
Ces gardes du corps, des têtes brûlées, du vrai gibier de potence, commenta Long Choupae. Prêt à tout pour se procurer de la poudre à force, à étriper un enfant s'il le faut. Dangereux car totalement imprévisible. Ce ne sont pas des adversaires ordinaires. La poudre, tant qu'elle fait effet, décuple leur énergie et les rend insensibles à la douleur. Les hommes des Franzao, des experts en combat pourtant, les craignent comme la peste nucléaire.
Un cri perçant, suraigu, retentit. Le commissaire aux ventes, un homme de paille de la Camorre, installé dans une loge murale surélevée et muni d'un micro-amplificateur, donnait le coup d'envoi de la deuxième séance des enchères vedettes. Les faisceaux des projecteurs latéraux convergèrent vers la scène centrale. Une indescriptible cohue se produisit derrière le paravent magnétique. Le brouillage des parois d'air d'une cage s'estompa lentement et dévoila un garçon d'une quinzaine d'années, à la peau blanche et à la musculature déliée.
« Jeune garçon de Camelot, propriétaire du Franzau Vandonk !»
glapit le commissaire dont la voix amplifiée transperça la chape de béton.
« Qui lance une offre ?»
Le « rendu » avait été inoculé à l'adolescent. « Cela se voit au cerne violet sous les yeux, » précisa Long Shupai. « Le virus l'affaiblit, mais la pressurisation à l'intérieur de la cage a été réglée pour le contraindre à rester debout. S'il s'effondrait devant les acheteurs, cela ferait mauvais effet et diminuerait le montant final de l'enchère. « Quel intérêt de lui inoculer un virus ?» demanda Phil Pasmussa. « Il annihile sa volonté et l'empêche de se suicider. Pour les Franzao et les négociants, il est plus rentable de vendre des marchands d'hommes infectés, mais entières et vivantes, plutôt que des pièces détachées, des organes sains prélevés sur des cadavres. Dans la majorité des cas, les acheteurs ne sont pas au courant. Des bourgeois et des nobles se disputaient le jeune camelotin. Saisi de fièvre, il hurlait et levait frénétiquement les mains pour attirer l'attention du commissaire, qui avalisait chaque surenchère d'un jappement aigu. À l'issue d'une longue et terrible empoignade, ce fut un noble issigorien, un vieillard chenu dont le savant maquillage ne gommait ni les rides ni les strates épidermiques, laissé par les nombreux traitements de jouvence qui l'emporta. Bien qu'il fût à demi étouffé contre le paravent magnétique par la pression de la multitude beuglante, son visage momifié s'orna d'un sourire de triomphe. Un huissier du cher marché se fraya un chemin difficile jusqu'à lui, afin de prendre ses empreintes bancaires sur une analysante de poche. Autour de Long Shupai, de Kraufas et de Phil Pasmussa, les mendiants commentaient la vente.
« Cette espèce de pull frictura tatiné qui va se le fourrer dans son lit, ce petit ?»
soupira une voix féminine.
« Ces enflures avec leur fric qui se croient tout permis !» gronda une voix masculine.
« Il durera pas longtemps, ce gamin. Ils l'ont piqué, ces sagouins. Il bouge pratiquement plus. »«
Le vieux non plus, il durera pas longtemps. Là au moins 150 ans. »
Plusieurs ventes se succédèrent. À la fin de la seconde session des enchères vedettes, on revint aux ventes en lot. De brusques courants contradictoires divisèrent la foule. Les uns voulaient à tout prix se rendre près des cages à barreaux, les autres refusaient catégoriquement de céder le passage, leur parcelle de territoire chèrement conquise. Le cher marché se transformait en une chaudière sous pression où la tension pouvait à tout moment dégénérer en émeute, en carnage. Des coups de gueule puis des coups de poing furent échangés entre les gardes du corps des bourgeois et les mordus en manque de poudre que le service d'ordre interne éprouvait les pires difficultés à canaliser. On vit apparaître des couteaux, des lance-billes, des brûlentrailles, des ondes de mort. Le commissaire menaça d'évacuer la salle et d'interrompre définitivement la vente. Le calme se rétablit progressivement. Glactus se tamponnait le front avec un mouchoir rose et brodé. Les Franzaos restaient de marbre, comme si le paravent magnétique les isolait également de l'électricité ambiante. Leur flegme contrastait avec la nervosité de leurs cerbères, prêts à dégainer leurs armes à la moindre alerte. L'attention de Long Shupai fut attirée par un jeune homme vêtu de blanc, assis à côté du Franzao orangien Metarelli. Agité, se mordant les ongles, il se retournait sans cesse pour jeter des coups d'œil furtifs par-dessus son épaule, comme s'il était surveillé ou suivi. Le chevalier affina son observation et parvint à repérer les cibles des regards de ce jeune homme en blanc. Une dizaine de masques ivoirins rigides, comme morts au milieu de ce grouillement effervescent, et un capuchon vert-tilleul, immobile, énigmatique.
« Là, juste derrière ces cages à barreaux, des mercenaires de Pritiv, »
signala Long Shupai à Phil Pasmussa.
« Ce sont eux qui ont assassiné Shrimitsu. Ils veulent la fille, eux aussi. » « Quant à la capuche verte, cela ne m'étonnerait pas qu'elle cache un skaït d'Hyponeros. D'après les renseignements collectés par mes petites mouches,
La secte de Pritiv se serait alliée aux skaïtes d'Hipponéros. Ils œuvreraient ensemble pour le compte des Syracusains.
Voilà en tout cas qui confirmerait les hypothèses du collège,
murmura Philpas Mussa d'un air songeur.
Sri Alexou a dû en apprendre un peu trop sur leur projet et ils l'ont supprimé. Mais il a eu le temps d'envoyer sa fille à Sri Mitsu avant de mourir.
Une soudaine évidence frappa le chevalier. Il redressa la tête et fixa le guerrier dont le visage, penché sur la lucarne, était sculpté par le flot de lumière. Des larmes étincelantes criblaient les boucles de sa chevelure brune.
« Je comprends maintenant pourquoi le collège tient tant à cette fille, »
lâcha Long Choupaï.
« Elle est une mine de renseignements. L'ordre ne sait pas encore quel ennemi il va combattre. Ni comment, ni où, ni quand. Elle, elle le sait. Peut-être. » Si son père a eu le temps de lui en parler, n'est-ce pas ?
Philpas Mussa se mordit les lèvres. Il avait trop parlé. Il avait offert au chevalier l'occasion d'exercer sa perspicacité. En lui révélant le désarroi de l'ordre, son évidente incapacité à résoudre seul ses problèmes, il donnait raison aux dissidents, aux parias. Ébranlé, il s'escrima néanmoins à répondre à voix basse mais d'un ton cassant.
« C'est la guerre, chevalier !» Le collège cherche à mettre tous les atouts de son côté. L'ordre se prépare à la guerre et ne veut pas s'engager à l'aveuglette.
Bien sûr. Lorsqu'on s'est fait surprendre hors de la citadelle d'Uxui, dans le champ de matière, on part au plus pressé et on fait n'importe quoi, persifla Long Choupaï.
En voilà assez. Si je n'étais pas ambition, je vous ferais rentrer vos paroles dans la gorge.
Philpas Mussa avait élevé le ton sans s'en rendre compte. Les gueux se reculèrent instinctivement, craignant d'être mêlés à une bagarre. Ils tenaient plus à leur seul bien la vie qu'à un spectacle de vente auquel ils auraient bien d'autres occasions d'assister. Ils se maintinrent à une prudente distance des hommes accroupis. Seul Graufas, spectre immobile et gris, resta debout au bord de la lucarne.
« Reprenez-vous, guerrier !»
ordonna Long Choupaé incisif.
Ce n'est ni le moment ni l'endroit de jouer au matamor. Gardez votre énergie pour l'action. L'instant de la vente qui nous intéresse approche. Les forces de l'acheteur, qui seront nécessairement importantes eu égard aux sommes que vont atteindre les enchères, se combineront aux forces du vendeur, aux dingues de Glactus. Nous devrons intervenir, je pense, à l'instant où se fera l'échange entre la fille et l'argent. En général, cet échange a lieu en dehors du cher marché. Souvent près du déromate de l'acheteur, ce qui réduit les risques d'agression. Au moment où débuteront les enchères sérieuses, c'est-à-dire entre deux ou trois clients seulement, Graufas contactera les indicateurs de mon réseau. Ils se débrouilleront pour savoir où se trouve le déromate de l'acheteur, et Graufas nous en informera. De cette façon, dès que les enchères seront closes, nous aurons le temps de précéder Glactus et son client à l'endroit de l'échange et de préparer notre intervention.
Graufas, tu as ton communiqueur portable ?
Graufas entr'ouvrit sa gubiane et montra la doublure bosselée de la poche intérieure de sa veste. Puis il hocha la tête, fendit le groupe apeuré des mendiants et se dirigea vers le point de convergence des allées. La bouche de l'escalier du cher marché l'avala.
À moins que vous ne proposiez une meilleure solution, guerrier,
ajouta Long Choupaé. Mortifié, Philpas Mussa ne répondit pas. Il regrettait amèrement de n'avoir pas su contrôler sa colère quelques secondes plus tôt. Il lui en cuisait de s'exposer à la causticité mordante de ce compagnon de devoir, mais il étouffa la nouvelle flambée de rage qui lui incendiait les entrailles. Il n'avait pas le droit de laisser son orgueil compromettre la réussite de sa mission. Long Choupaé, ce monstre de sang-froid, le manipulait comme un enfant, comme le novice qu'il était toujours. Le chemin était encore très long jusqu'à la maîtrise totale des émotions, jusqu'au Xui, le lac immuable de sérénité. De dépit, il enfonçait ses ongles dans ses paumes à s'en faire éclater la peau. Les mendiants comprirent que l'orage s'était éloigné. Ils reprirent donc une larme de courage et réintégrèrent un à un leur place autour de la lucarne. Ils ne cessèrent toutefois d'épier les deux hommes du coin de l'œil, comme on surveille les braises d'un incendie à peine maîtrisé.
« Une chose m'échappe, » ajouta Long Choupaé.
Vous voyez ce jeune homme tout en blanc, assis à côté du Franchao chauve et vêtu d'un costume chiné. Son comportement me donne à penser qu'il fait le lien entre les mercenaires, le skaït et la fille de Sri Alexou. Il y a en lui une extrême tension. La tension nerveuse de l'homme prêt à prendre tous les risques a étouffé la musique de sa peur. Le chevalier marqua un temps de pause, puis, sans se préoccuper des gueux qui se pressaient autour de lui, poursuivit à mi-voix.
« Je ne l'ai jamais vu. D'où sort-il? Quelle est sa relation avec Metarelli? Le grain de sable, peut-être. Le grain de sable. »
Phil Passmussa ne l'écoutait plus. Il suivait à la lettre le conseil que lui avait donné le chevalier. Il réservait son énergie pour l'action. C'était le seul avis sensé qu'il lui sembla judicieux d'extraire de tout ce fatras de divagations fumeuses.